Chers auditeurs de Radio Maria, bonjour, bonjour à vous. Aujourd'hui, nous voyageons et nous nous rendons en Bretagne, dans le Finistère, pour recevoir le témoignage du père Hervan de Kermangui, prêtre du diocèse de Quimper-Léon et curé de la paroisse Notre-Dame de Tourmède en pays de Landerneau. Et je m'adresse particulièrement à nos amis auditeurs bretons qui pourront se reconnaître dans ce vocabulaire si spécifique. Mon père, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Soyez les bienvenus sur les ondes de Radio Maria.
Eh bien, merci pour votre invitation. C'est une joie d'être avec vous cet après-midi, en ce beau jour de l'Annonciation.
C'est une joie mutuelle et partagée, mon père, en ce jour, comme vous le dites justement, le rappeler, de l'Annonciation. Si vous le permettez, commençons maintenant notre entretien, qui devra prendre fin à 14h55 à peu près, qui nous laisse une bonne vingtaine de minutes. Père Hervan, pouvez-vous d'abord vous présenter à nos auditeurs votre parcours, d'où vous venez, l'appel du sacerdoce tardif ou très tôt, voilà les questions classiques que nous posons à nos amis prêtres diocésains.
Alors, je suis né dans le Finistère, à la pointe de la Bretagne, il y a 39 ans maintenant, presque 40, dans une famille chrétienne où ma foi a beaucoup grandi, je dirais, dans le quotidien. Je dirais trois aspects ont marqué la croissance de ma foi. Il y a la vie de famille, le fait de faire la prière en famille, le fait de participer à des activités, des pèlerinages en famille, des choses comme ça. Un deuxième aspect qui a beaucoup compté, ça a été le scoutisme, où j'ai découvert que Dieu était un Dieu proche et non pas un Dieu lointain. C'est-à-dire que je faisais l'expérience de Dieu à travers une petite chapelle, à travers un coin prière au fond des bois, à travers le fait de faire la prière avant de manger un repas qui était peut-être pas très bien cuisiné, mais bon, on avait cuisiné avec tout notre cœur et ça paraissait normal de prier pour remercier Dieu. Enfin voilà, cette expérience de la familiarité de Dieu a fait beaucoup grandir ma foi. Et la troisième expérience, c'est la vie paroissiale. Alors j'étais dans une paroisse rurale assez, je dirais assez lambda, comme il y en a, comme il y en avait en tout cas des milliers en France à cette époque-là, où il n'y avait pas de jeunes à la messe. Je servais la messe, mais j'étais tout seul à servir la messe. Une liturgie sans doute assez catastrophique, enfin qui à l'époque me semblait assez bizarre. Voilà, on disait pas le credo, on croyait en Dieu qui chante ou des choses comme ça, qui me paraissait pas tout à fait normal, mais en même temps qui me semblait être le lieu où Dieu m'attendait. C'était ma paroisse et j'ai grandi avec cet attachement à l'église locale, paroissiale, diocésaine, en me disant elle est pas parfaite, mais c'est ma paroisse, donc c'est mon église, donc c'est là que Dieu m'attend. Ça a été, je dirais, trois enjeux dans la croissance de ma foi et dans l'appel à devenir prêtre diocésain, là où d'autres ont eu d'autres appels à partir ailleurs, etc. Quand j'étais jeune enfant, je voulais être missionnaire, partir à l'autre bout du monde, parce que j'avais entendu des histoires de missionnaires qui partaient, qui remontaient les fleuves du Canada, qui finissaient scalpés par des Indiens, ou qui allaient se faire manger par des lions en Afrique. Enfin, ça me semblait extrêmement exotique et enthousiasmant. Et au collège, je me suis dit, mais en fait, le lieu de mission, c'est ici, parce que dans mon collège, je suis le seul à la messe, donc s'il faut être missionnaire, c'est pas chez les Indiens sur un canoë, mais là pour les jeunes du collège où je suis, quoi. Je dirais voilà un peu l'origine de ma vocation.
Très bien, nous avons bien.
Je suis curé de paroisse, voilà.
Vous êtes curé de la paroisse Notre-Dame de Tourmède, en pays de Landerneau. Magnifique, magnifique. Si vous le voulez bien, mon père, juste une petite précision, que ma prononciation soit exacte. Dis donc plutôt père Erwan ou père Erwan ?
On dit Erwan, oui.
Erwan, très
français,
bien.
En français, on dit Erwan. En breton, on dit Erwan. Mais je pense qu'on va rester en français. Ce sera plus simple pour vos auditeurs.
Pour qu'ils comprennent. Alors, juste un détail. Durant vos études, père Erwan, donc vous avez fait philo à Rennes 1, fac de Rennes 1, et puis vous êtes sorti diplômé de l'ENSAE, qui pour nos auditeurs, je précise, est l'École nationale de la statistique et de l'administration économique à Paris. Donc on vous imagine diplômé de cet institut prestigieux, prêt à devenir expert dans les chiffres, les analyses, les bilans, Excel, et puis vous embrassez le sacerdoce. Que s'est-il passé entre la fin de vos études et le début de votre sacerdoce ?
À vrai dire, ma vocation sacerdotale est ancienne. Donc je vous ai dit que collégien, j'avais ce profond désir missionnaire. Au lycée, les choses avaient bien mûri et il me semblait assez évident qu'à la fin du lycée, qu'après mon bac, je rentrerai au séminaire. Et sur les conseils d'un chef scout, j'ai été faire une retraite de discernement parce que mon choix numéro un post-bac, c'était vraiment le séminaire. Et donc mon chef scout m'a dit, écoute, prends le temps de te poser, si Dieu t'appelle, c'est bien d'y réfléchir, va faire une retraite. Et en faisant les exercices de Saint-Ignace, j'ai médité, ça me douche qu'on en parle aujourd'hui, puisque j'ai médité le récit de l'Annonciation donc que nous avons à la messe aujourd'hui, et en voyant le oui de Marie, je me suis dit que j'ai vraiment senti l'appel à dire moi aussi ce oui à Dieu. Et en même temps, il m'a semblé que la Vierge Marie, même si rien n'est raconté dans l'Évangile sur ce qu'elle fait immédiatement au départ de l'ange, on dit que rapidement elle se met en route pour aller voir Élisabeth, mais il m'a semblé qu'au moment où l'ange s'en va, Marie ne change pas directement sa vie. C'est-à-dire que, alors ce que je vous dis, c'est pas vérité de l'Évangile, c'est la manière dont l'Évangile a nourri ma prière à ce moment-là. Je ne sais pas ce que Marie faisait quand l'ange est venu la voir. Est-ce qu'elle était en train de faire du pain? Est-ce qu'elle était en train de lire un roman? Est-ce qu'elle était en train de passer le balai? En tout cas, il m'a semblé que ce qu'elle faisait, elle l'avait continué. Je l'ai entendu comme un appel, moi, à continuer. C'est-à-dire de me dire, Dieu t'appelle à devenir prêtre. Dieu te demande, comme Marie, de lui dire oui. Mais c'est un oui pour plus tard. C'est-à-dire que c'est un oui qui va prendre le temps de germer en toi, de se déployer. Et pour Marie, c'est un oui qui atteindra sa plénitude à la croix. Donc quand même, plus de 30 ans plus tard. Et donc pour toi, aujourd'hui, tu es lycéen. Un lycéen, après son bac, ça fait des études. Donc va faire des études. Et donc j'ai commencé des études littéraires. J'ai fait une hippocagne à Sainte-Marie de Neuilly. Ce qui m'a donné l'occasion de quitter ma province et ma Bretagne et aller découvrir la vie parisienne avec beaucoup de joie, de découvrir des gens venus d'un peu toute la France, de me plonger aussi dans des études un peu approfondies du point de vue littéraire. Donc j'ai fait une hippocagne, j'ai fait deux cagnes. Et ça a été l'occasion de réconcilier foi et raison. J'avais toujours un peu peur à ce moment-là que réfléchir m'amène à perdre la foi. Et j'ai au contraire découvert des gens profondément intelligents qui m'ont poussé dans les retranchements et qui m'ont fait grandir dans la foi. Certains étaient croyants, d'autres ne l'étaient pas. Tous avaient un profond respect de la foi et une profonde conviction que l'intelligence ne nuisait pas à la foi, bien au contraire. Et donc ça a été trois années extrêmement stimulantes. Et dans la foulée, j'ai intégré effectivement cette école de l'INSEE, l'ENSAE, où je me suis aussi, j'ai plongé avec joie dans tout ce qui est vie étudiante, association étudiante. J'ai été chef scout, j'ai été responsable de monnerie, voilà. Mais j'ai été amoureux aussi. Et en même temps, grandissait l'idée que une fois que j'aurai mon diplôme, le temps était mûr pour rentrer au séminaire, et que ce oui que j'avais dit à Dieu quelques années avant, si je voulais toujours le dire. Il était temps, après mon diplôme, de rentrer au séminaire. Donc, en dernière année d'études, j'ai contacté mon évêque et j'ai demandé à le rencontrer en disant que je voulais rentrer au séminaire. Et ce que j'ai fait juste après mon diplôme.
Merci, Père Erwan, pour ces détails. Passons, si vous le voulez, à votre territoire, si l'on peut dire, les 22 paroisses qui sont sous votre responsabilité. Alors, dans les grandes villes, dans un arrondissement, on peut avoir 8 paroisses, comme à Paris. Ici, on parle de 22 paroisses dans un territoire assez grand. Comment organisez-vous votre activité entre... J'ai vu que vous étiez assez actif dans la pastorale des jeunes, dans l'aumônerie. On vous décrit comme un curé connecté, actif sur les réseaux sociaux. Comment embrassez-vous ce sacerdoce dans ce territoire breton rural avec de nombreux clochers ?
Alors, pour être plus précis, je suis curé d'une seule paroisse ayant 22 communes et 24 clochers. Et c'est pas juste une précision, c'est un vrai changement. C'est-à-dire que le diocèse a fait le choix il y a 7 ans maintenant de non pas juste de regrouper des paroisses, ce qui était fait depuis longtemps déjà, mais de les fusionner du point de vue officiel, canonique. Ça facilite nettement la vie d'un curé, même si ça ne réduit pas le territoire, mais ça réduit beaucoup d'administratif, et surtout ça permet de construire une communauté unique. Depuis que je suis curé, j'ai vraiment découvert l'importance du lien pastoral, entre un curé comme pasteur et sa communauté, et même si la communauté a des lieux différents, parce qu'il y a un certain nombre de clochers, je reste curé d'une seule communauté paroissiale, et qui a une dynamique unique, avec évidemment, là encore, des gens qui, les uns et les autres, vont à leur rythme. L'image pour moi, qui me parle le plus de la communauté paroissiale, c'est une famille, une réunion de famille, imaginons des vacances de Noël ou l'anniversaire de la grand-mère, ou voilà, les petits-enfants sont là, il y a donc plusieurs familles rassemblées, il y a plusieurs générations rassemblées, et on va faire une promenade, on choisit alors chez nous c'est des promenades sentiers côtiers, on choisit un chemin que la grand-mère du haut de ses 90 ans peut parcourir encore sans souci, en même temps où les adolescents vont pouvoir aller grimper dans les rochers et s'amuser, et on va marcher à un rythme qui permet aux plus jeunes de courir devant, voilà, et sans s'éloigner trop, aux plus anciens de marcher à leur rythme et de discuter. Et l'enjeu d'une communauté paroissiale, c'est de permettre tout ça, de permettre aux plus jeunes d'avancer à leur rythme ou d'essayer des choses, aux plus anciens de pas être mis de côté, à ceux qui sont dans la force de l'âge, bien, d'assumer la responsabilité et la direction de la communauté, de trouver aussi des compromis entre les attentes différentes. Ça, c'est pour moi l'un des premiers enjeux autour de la communion, et donc de faire abstraction un petit peu, de ne pas être piégé par la pluralité des territoires, mais vraiment de se dire c'est d'abord une communauté humaine, même si elle est sur plusieurs territoires. Je suis pas curé de plusieurs paroisses, mais d'une seule. Le deuxième aspect, c'est j'ai longtemps été en pastoral des jeunes, et quand vous laissez des enfants ou des ados sans rien faire, à s'ennuyer, très vite ça se dispute. Quand vous arrivez sur un terrain, moi j'ai beaucoup été dans les cités HLM avec des étudiants pour animer des jeux d'enfants, souvent on arrivait avec et on voyait des petites bandes d'ados ou d'enfants qui voulaient pas jouer ensemble, qui facilement se disputaient. Et en arrivant avec un ballon et en lançant un projet, un jeu, n'importe quoi, en fait, les enfants avaient plein d'idées, se fédéraient d'eux-mêmes, et on faisait plein de jeux que nous, on connaissait pas, que les enfants nous apprenaient, mais parce que on avait commencé à lancer un truc qui unifiait. Et dans la vie paroissiale, c'est pareil. Dans la vie paroissiale, quand la paroisse se regarde elle-même ses problèmes, on n'a plus assez de monde pour faire ceci, on n'a plus assez de monde pour faire cela, quand on regarde nos problèmes, on se divise et chacun tire la couverture à soi. Quand au contraire, on revient à notre mission, la mission que le Christ nous a confiée, aller évangéliser, Paul VI disait, l'Église existe pour évangéliser. Quand on revient à notre mission et qu'on avance vers l'évangélisation, alors tout le reste trouve sa place et chacun arrête de tirer la couverture à soi, mais plutôt la plupart des gens vont entrer dans la dynamique parce que ça avance. Donc voilà un petit peu la manière dont je me situe comme curé.
Merci Père Erwan. Passons, si vous voulez, au catéchuménat. On a noté cette année en France un taux de croissance impressionnant, plus 30% d'augmentation des baptêmes demandés par les adultes et plus 50% chez les adolescents. Est-ce que vous notez en terre de Cornouailles et en pays de Landerneau un retour à la fois une quête spirituelle chez les jeunes et les adultes? Quelles sont vos premières impressions?
Alors oui, je le note. Alors pour moi, il est plus ancien que cette année. Hein. On disait déjà la même chose l'année dernière et l'année d'avant. Pour moi, il y a une inflexion de la courbe après le Covid. Il y a une croissance de long terme des baptêmes d'adultes, hein, depuis les années 2000 au moins. Entre 2000 et 2020, on est passé de 2000 baptêmes d'adultes à 4000 baptêmes d'adultes. Et là, on était donc à 7000 cette année. Donc il y a une vraie accélération depuis 2020. À Landerneau, alors c'est pas seulement la Cornouaille, Landerneau c'est à cheval entre la Cornouaille et le Léon, donc vous allez vexer les auditeurs du Léon si je ne le précise pas. Donc,
pardon, Léonais.
Landerneau est un pont entre la Cornouaille et le Léon. Donc, des deux côtés, on voit une vraie augmentation. Ce qui est fascinant, c'est qu'à la fois, cette augmentation, elle vient pas de nous, clairement. Moi, je l'ai vu aussi quand même, déjà quand on est étudiant jusqu'en 2021. On sentait déjà cette augmentation. Et on faisait plein de trucs pour évangéliser, de la mission et tout avec les étudiants. Et les catéchumènes qu'on avait, ils venaient pas de là. Et on avait pris l'habitude de dire, en fait, si on ne faisait rien en termes de mission, on n'aurait eu personne. Mais c'est pas ce qu'on a fait qui a été efficace. Ce que fait une communauté paroissiale quand elle se met dans une dynamique de mission, c'est d'ouvrir son cœur pour accueillir les catéchumènes que le bon Dieu enverra. La mission d'évangélisation, elle change d'abord le cœur de la communauté. Et c'est pour moi, le problème essentiel, c'est comment nos communautés sont capables d'accueillir des catéchumènes. Parce que nos communautés, très souvent, pensent par rapport à elles-mêmes et non pas par rapport aux gens de l'extérieur, puisqu'elles connaissent pas les gens de l'extérieur, leur manière, leurs besoins, leur manière d'être, leur disponibilité, etc. Et donc tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de façonner nos communautés chrétiennes pour qu'elles soient capables d'accueillir les convertis, les recommençants, etc. Un exemple parmi d'autres, c'est évidemment celui de la liturgie. Comment est-ce que quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds à l'église, moi, aujourd'hui j'ai quasiment tous les dimanches ou un dimanche sur deux des recommençants, des gens qui viennent à la messe pour la première ou la deuxième fois, et simplement il faut être capable au début de la messe de les repérer déjà, de voir, ah tiens, celui-là il a pas l'air de trop savoir, c'est tout bête, celui-là il a pas pris de carnet de chambre, donc il doit pas savoir qu'il faut en prendre, hein. donc il faut le repérer et pouvoir le présenter à un paroissien, lui donner éventuellement un dépliant qui viendrait de suivre la messe, lui dire on se retrouve à la fin de la messe, on prend un café et faire connaissance, le mettre en contact avec d'autres paroissiens qui aient un peu son profil pour qu'il puisse se sentir, qu'il y ait des affinités qui se créent. Ça demande une vraie conversion du côté des communautés chrétiennes, de se dire notre priorité doit être l'accueil des nouveaux. Ce qui n'est pas du tout la logique traditionnelle du christianisme chez nous, où notre priorité, elle était ou de prier, ce qui est pas mal, ou de se mettre au service dans la solidarité, la diaconie, tout ce qu'on veut, ce qui est très bien aussi. Mais finalement, s'occuper des nouveaux chrétiens, c'était pas notre problème parce que les gens qui étaient chrétiens, ils étaient chrétiens depuis toujours. Les autres, ils l'étaient pas du tout, mais il y avait une frontière qui était là de fait. À la rigueur, le problème était plutôt d'empêcher les gens de franchir la frontière pour empêcher les gens de sortir de l'église, mais accueillir ceux qui franchissaient la frontière dans l'autre sens, ça n'était pas un problème parce que ça n'existait pas. Donc ça, c'est, je pense que c'est une vraie révolution dans la culture de nos paroisses et ça prend un peu de temps.
Père Erwan, nous avons encore une minute et demie. Quelle est la plus grande joie de votre ministère aujourd'hui?
La plus grande joie de mon ministère aujourd'hui, c'est de voir des chrétiens qui s'engagent pour l'annonce de l'Évangile, pour justement l'accueil des catéchumènes. Je dirais que comme prêtre, ma plus grande joie, c'est moi quand je suis au contact de ces non chrétiens ou de ces peu chrétiens ou de ces gens qui sont à la marge de l'Église et avec lesquels j'ai la possibilité d'échanger. Ça, c'est dans mon ministère de prêtre, mais ça, c'est depuis l'ordination. Et comme curé, c'est de voir que des chrétiens, je dirais, traditionnels, des chrétiens de toujours, les chrétiens qui est dans le bocal, quoi, comme le chrétien canal historique, de voir qu'ils sont la joie qu'ils ont quand ils font ce passage. On a mis en place, nous, un café d'après-messe avec 3 minutes où on dit bonjour, on demande aux gens de dire bonjour à des gens qui ne connaissent pas. Et dimanche, là, j'ai entendu une paroissienne plutôt assez réservée aller saluer quelqu'un en disant « on m'a dit qu'il fallait dire bonjour à quelqu'un qu'on ne connaît pas, alors je viens vous voir ». Et ça, c'est pour moi, c'est une vraie joie de me dire « ça y est, la paroisse prend le pli ».
Absolument, mon père, c'est une grande joie et que l'on observe également dans la paroisse parisienne de plus en plus. Nous allons devoir conclure. Père Erwan, merci infiniment de votre témoignage, de votre disponibilité, de votre enthousiasme dans ce pays breton si éloigné de Paris, compris entre la Cornouaille et le Léon. Nous vous remercions infiniment. Et avant de partir, j'aimerais vous saluer. Et vous dire Kenavo, Breiz Daviken, ce qui veut dire pour les nombreux tenants, au revoir, la Bretagne pour toujours.
Amen, que Dieu vous bénisse.
Que Dieu vous bénisse, merci Père Erwan.
Chers auditeurs de Radio Maria, c'était notre émission Un prêtre témoigne avec Christophe qui recevait le Père Erwan de Kermanguy. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur notre site www.radiomaria.fr ou sur notre application Radio Maria Play.